Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale du moment. Et ce soir, c'est Léo qui nous présente un nouveau reportage. Et pour nos auditeuristes les plus assidus, vous commencez à le connaître. Il est parti couvrir la manifestation qui se tenait le 4 février dernier, place du ralliement qui avait réuni notamment de nombreux syndicats qui avaient défilé dans les rues d'Angers. Il a pu recueillir des témoignages du monde de la culture, des métiers de la santé et de personnes syndiquées. En fin d'émission, ça sera au tour d'Alexandra, notre stagiaire de la semaine, de nous proposer une chronique. Elle y revient sur différents variants anglais, mais pas forcément ceux auxquels on pense. Je vous laisse découvrir ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
La place du ralliement d'Angers baignait dans la grisaille jeudi 4 février au matin jusqu'à 10h30 environ. Elle s'est ensuite garnie d'un peu moins de 500 manifestantes et manifestants et de 50 nuances de syndicats, les lycéens de l'UNL, les étudiantes et étudiants de l'UNEF, des jeunes communistes, le monde de l'éducation, de la culture et de tous horizons, représentés par la CGT, Force ouvrière, SNES-FSU, Solidaire, Sud et j'en oublie sans doute. Convergence des luttes, donc, et convergence des revendications, telles qu'elles étaient exposées dans le communiqué publié par l'intersyndicale avant le rassemblement et rappelé par les différentes prises de parole avant le départ du cortège vers Foch à 11h30. Critique globale de l'enrichissement des grands groupes et des suppressions de postes en dépit de l'argent public qui leur a été versé pour pallier le ralentissement de l'activité depuis mars 2020.
C'est environ 300 emplois dans le Maine-et-Loire qui ont disparu avec des suppressions, des plans de suppression d'emplois de grands groupes. Michelin à Cholet, Mehdi Tartis à Avrillé, Schneider Electric à Saumur, Saint-Gobain à Trélazé, Polstra à Segré, Vichy-Vallin à Chalonne. Au prétexte de la crise sanitaire, ce sont des grands groupes de surface internationale qui prétendent qu'ils sont obligés de licencier à cause de la crise du Covid. C'est la crise du parasitisme des actionnaires, des grandes entreprises qui, Covid ou pas Covid, veulent continuer à toucher leurs dividendes. Un rapport de l'Oxfam, une organisation non gouvernementale de lutte contre la pauvreté, démontre que la fortune des 43 milliardaires de la France a dépassé celle de février 2020, c'est-à-dire qu'en pleine crise, ils ont gagné 175 milliards d'euros en plus.
L'état du service public, hôpitaux et écoles.
De quoi parle-t-on comme plan de relance ? Rien pour l'université, rien pour l'hôpital, rien pour l'éducation, rien pour les services publics, rien pour la culture. C'est ça où nous en sommes aujourd'hui. Un petit chiffre, Sanofi, aujourd'hui, l'an dernier, c'est 1 milliard de subventions qui ont été accordées par l'État. 1 milliard à Sanofi. Pour faire quoi ? Distribuer 4 milliards à leurs actionnaires. Et pour licencier, pas plus tard que la semaine dernière, 400 chercheurs.
La situation des métiers de la culture, méprisée.
Répondre au monde de la culture en faisant semblant de penser qu'il ne s'agit que de la demande d'un secteur inquiet de son sort, c'est rater l'histoire. Pour un pays, la culture ne se résume pas à un secteur d'activité économique, c'est un peu de son âme. L'art et la culture ne sont pas des objets de consommation comme les autres. Ils ne l'ont jamais été et ne doivent jamais l'être. C'est un territoire d'instruction, de libération, d'apprentissage, de divertissement, de partage, de plaisir, de savoir, d'éducation, de réflexion, d'empoignade. Bref, un lieu d'intelligence, de débat et de curiosité. L'exception culturelle française est dans le coma.
La situation des jeunes que vous avez pu découvrir dans nos précédents reportages. Les revendications étaient les suivantes. Contrôle de l'utilisation de l'argent public par les entreprises et suppression des dividendes versés aux actionnaires en 2020. Petite parenthèse, les dividendes, C'est une part de bénéfice réalisée par une entreprise versée à ses actionnaires. Développement du service public, création de 500 000 emplois et gel des plans de licenciement en cours, réforme de l'assurance chômage, hausse du SMIC et réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire, la réouverture des lieux culturels, investissement dans les universités et les CROUS. Je suis ensuite allé à la rencontre des manifestantes et manifestants pour recueillir leurs témoignages. D'abord, petit tour par les métiers de la culture en tête de cortège avec Carole, danseuse et chorégraphe, et Jean-Michel, musicien et compositeur.
Les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille.
Moi je pense sincèrement que dans un théâtre, dans la mesure où il y a une équipe pour accueillir le public, on rentre, on se lave les mains, on porte un masque, on est assis à distance, on ne touche à rien, je pense que on pourrait réouvrir et que le gouvernement ne fait pas assez pour aider la culture.
Voilà. Et c'est paradoxal parce qu'on voit des grandes surfaces qui accueillent beaucoup de monde, il n'y a pas de respect des distances de sécurité, et pour autant, comme vous dites, dans les musées, les théâtres, il y a tout ce qu'il faut, il y a matériel, les gens savent se tenir, on peut les mettre un siège sur deux, on peut respecter les distances, c'est un peu paradoxal, non?
C'est pour ça qu'on est autant de temps qu'on n'est pas satisfait, parce que vraiment on pense qu'il y a, il y a un boycott de la culture ou il y a une volonté derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, oui, effectivement, le supermarché reste ouvert, alors qu'on peut vraiment maîtriser plus le public dans un théâtre, dans un musée ou on sait le faire dans ces lieux-là. Donc oui, c'est de la compréhension.
Et c'est la convergence des luttes qui explique votre présence ici. Il y a un peu de tout, il y a tous les syndicats, il y a la CGT, il y a les lycéens, les étudiants, le personnel de l'éducation nationale, le CHU. C'est un petit peu tout le monde qui se retrouve aujourd'hui pour dire qu'il faut changer de cap.
Tout à fait, ouais, bah oui, je pense que c'est important. On peut décider ce qui nous semble essentiel, ce qui nous paraît important de préserver pour le lien entre nous, pour notre humanité, pour nos échanges. Et décider d'être aussi concerté pour décider ce qu'on laisse ouvert. En plus, c'est là où ça semble qu'il y ait moins de risques qu'en effet dans un grand magasin où tout le monde peut toucher à tout et transmettre facilement. Quoi.
On part ensuite dans le service public d'éducation et de santé avec Christophe, professeur d'éco en lycée, du personnel du Sésame et Monique, infirmière au CHU d'Angers.
Quel a été concrètement dans ta classe ton vécu par rapport à la crise Covid? Vous avez manqué de quoi? Dans les revendications, on a entendu un plan de relance du service public, la création d'emplois, 500 000 emplois. Comment est-ce qu'on investit et de quoi tu penses qu'il y aurait besoin prioritairement dans l'éducation nationale?
Depuis un an, à part tenir avec le masque et puis quelques mesures de distanciation, il n'a rien été fait. Nous, ce qu'on veut depuis le début, c'est face à une situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels. Ça semble logique. D'ailleurs, je remarque que des pays comme l'Italie ou l'Espagne, qui sont a priori économiquement pas beaucoup mieux que nous, ont dégagé 11 000, entre 10 et 15 000 emplois supplémentaires de profs. En France, rien. On continue de supprimer des postes enseignants à la rentrée là, alors même qu'on est dans une situation où les gens se tirent les cheveux pour faire tenir la situation avec le protocole actuel. C'est ça qui ne va pas. Aucun moyen supplémentaire en psychologue, en infirmière, en prof pour dédoubler les classes, enfin pour tout faire ça, c'est un véritable plan de continuité. Alors que là, tout l'effort repose en fait sur les efforts que veulent bien faire les gens chaque jour à leur tâche, et au bout d'un moment, les gens sont un peu épuisés.
Et comment est-ce qu'on finance tout ça? Forcément, les entreprises vont préférer relancer l'économie et mettre le service public et l'écologie un petit peu derrière.
Moi, je suis syndicaliste, donc moi, avec l'intersyndicale, ce qu'on défend, c'est une réorientation de la répartition des richesses en France, ça c'est sûr, de profiter au contraire d'une crise comme celle qu'on traverse, qui est une crise profonde, sanitaire, économique, écologique, sociale, pour profiter de ce moment-là, pour rediscuter du partage des richesses, du temps de travail, de la fiscalité, de la justice fiscale, de la justice écologique. C'est ça qu'on veut, nous, pour sortir de cette épreuve.
D'Angers, effectivement, ça manque de lits. Alors après, au-delà des lits, je pense que si on avait plus de personnel, on pourrait travailler déjà avec l'existant, mais les effectifs, les collègues sont rappelés sur les repos, on trouve des moyens de remplacement au maximum pour combler les effectifs manquants, donc ça tourne pas, les gens s'épuisent, il y a de nombreux arrêts, l'absentéisme aussi à cause de longues maladies, ouais. C'est un peu, ça s'épuise au fur et à mesure, les soignants s'épuisent et la machine tourne plus bien. Quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui manque aussi à d'Angers et qui a été exacerbé par la crise sanitaire?
Vous savez, on l'avait montré pas mal dans les mouvements il y a un an et demi, voire plus. C'est surtout les effectifs, en fait. Hein. Le personnel, on demande qu'il y ait une augmentation partout, que ce soit dans les hostos, mais les EHPAD aussi, qui sont très 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 atteintes là en ce moment surtout. C'est vrai que la crise elle a révélé ça. Au démarrage de la crise, en tous les cas, les hôpitaux ont eu beaucoup de mal à répondre. Et puis c'est encore le cas. Dans les EHPAD, on voit bien, dès qu'un EHPAD est un peu atteint, voilà, les salariés évidemment ils sont contaminés et ils ne trouvent pas forcément des gens pour venir bosser dans ces structures-là. Hein. C'est compliqué quoi. Ouais. Et puis l'hôpital, on a manqué bien sûr du monde, ça c'était évident. Ils ont quand même été obligés de demander à la deuxième vague aux étudiants, par exemple infirmiers, de venir travailler. Bon, c'est des collègues qui ont mis leur formation en parenthèse. Et c'est quand même, ça peut voilà, soit prolonger la formation, on ne sait pas, soit mettre en difficulté certains. Voilà.
Et d'un côté, c'est un petit peu tout le monde qui trinque parce qu'on se retrouve avec un personnel épuisé. Concrètement, c'est quoi la suite, vous pensez? Une relance du service public avec de la création d'emplois, qu'est-ce qui se dessine un petit peu aujourd'hui?
Voilà, c'est clair qu'on n'est pas parti. On n'est pas parti dans ce sens-là. On aurait pu le penser, du moins avec les annonces au premier confinement. Hein, le gouvernement a pas arrêté de dire qu'il avait bien pris la mesure de ce qui se passait dans les hôpitaux et dans la santé. Et en fait, il s'avère que les finances, ça ne suit pas non plus cette année. Hein, la loi de finances, elle prévoit encore des économies à faire. Donc c'est sûr qu'on n'est pas parti dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue, nous, à manifester pour que justement il y ait des vraies décisions de financement, de formation et puis de création de lits, parce que finalement c'est aussi ça qui manque.
Enfin, discussion avec une syndicaliste de la CGT et Brigitte, militante chez ATTAC, pour réfléchir à la taxation des entreprises, des multinationales et même la refonte totale du système économique.
Comment est-ce qu'on rénove le service public?
Ça fait des années qu'on supprime les moyens dans tous les services publics et après on dit que ça ne fonctionne pas et qu'on veut passer ça au privé parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est la première. La deuxième, là où les besoins sont aussi essentiels, donc j'ai un peu de mal, on ne peut pas hiérarchiser à tel ou tel service public. Ils sont tous au bénéfice de la population et des situations des citoyens sur tout le territoire, qu'il soit métropole ou hors métropole. Mais les métiers en tension, c'est l'hôpital, les EHPAD. Les EHPAD où il manque 300 000 emplois. Et après, dans l'éducation nationale. Mais il y a aussi tous les emplois territoriaux où ce sont des services publics de proximité. Et qu'en coupant les vivres, c'est-à-dire en supprimant les taxes d'habitation, des impôts qui sont liés pour les services publics territoriaux, après, l'État dit qu'il va doter les collectivités territoriales, mais après, les dotations, elles baissent. Donc, du coup, ça étrangle les collectivités territoriales et elles se retrouvent avec moins de moyens.
Hausse du SMIC, réduction du temps de travail. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises bloquent ces demandes?
Quand on regarde les milliards d'euros qui sont donnés aux actionnaires, en fait, on voit bien que c'est la manière dont est partagée la richesse du travail qui se pose question et non pas de dire si les services publics vont coûter cher ou pas cher. La question, c'est de poser quelle répartition de la richesse.
Vous avez aussi parlé de supprimer les dividendes qui étaient versés aux actionnaires.
Oui.
On parle là d'un système économique qui s'est construit sur plusieurs années. Comment est-ce que c'est réaliste de vouloir supprimer d'un coup? Et comment est-ce que ce serait possible justement de changer en profondeur le système économique?
Là, on voit qu'on est dans une crise, sociale liée au Covid. En fait, l'argent public est donné principalement vers les entreprises. Et en fait, les entreprises, on voit bien que, par exemple, Sanofi, ça a été dit ce matin, Sanofi a reçu des milliards et va verser des milliards de dividendes aux actionnaires et supprime de l'emploi. Donc on voit bien que cet argent-là ne va pas au bénéfice des citoyens, mais va plutôt dans la poche des actionnaires. Donc ensuite, en disant qu'on peut faire une année blanche des dividendes versés aux actionnaires pour reverser dans le bien public, en fait, c'est une agile de retour de l'argent public qui leur est donné gratuitement.
Comment est-ce qu'on contrôle le bon usage de l'argent public qui a été versé aux entreprises pour qu'elles tiennent pendant la crise sanitaire? Comment est-ce qu'on contrôle?
Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la clarté sur l'argent qui est distribué aux entreprises, quand même, il est injecté dans l'entreprise et non pas versé directement aux actionnaires.
Baisse du temps de travail, augmentation du SMIC, suppression des dividendes aux actionnaires. Comment est-ce qu'on met en œuvre tout ça concrètement ?
Concrètement, il faut revenir à une réflexion sur la fiscalité. Attac milite depuis sa fondation pour la taxation des transactions financières. On a entendu dans toutes les prises de parole à quel point les très grandes fortunes, les actionnaires qui récupèrent des dividendes ne sont jamais concernés par une mutualisation des ressources financières de façon à ce que les États reprennent la main et aient une vraie politique sociale. Et vraiment, je trouve que c'est hallucinant. Aujourd'hui, la plupart des intervenants qui sont présentés comme de grands économistes ne parlent plus du tout de l'impôt ou vous disent que l'impôt n'est pas la solution. Le mot impôt est devenu une obscénité. Et je trouve que c'est inexplicable. Il faut revenir au fondement de l'État. L'État, c'est l'ensemble des citoyens qui décident de se donner un gouvernement dans un État démocratique. Pour vivre, pour assurer la sécurité, pour assurer la santé, cet État a besoin de ressources parce que tous ces biens là, bien que communs, bien que mutualisés, ne sont pas gratuits. Et pour financer ces biens-là, on a besoin de revenir à une forme de fiscalité et à l'impôt. On est en train de nous enfermer dans un système qui conduit la planète à sa perte.
Et comment on fait aujourd'hui, à l'heure où quand même bon nombre d'entreprises vont vouloir dire on met l'écologie, les services publics et tout ce qui va coûter de l'argent de côté pour renforcer justement la croissance et remettre les entreprises sur pied. Comment est-ce qu'on pourrait les convaincre de justement revoir, comme vous l'avez dit, la fiscalité des entreprises?
Il y a aussi la fiscalité de toute la planète financière. Il y a le technique de la financiarisation qui est complètement à revoir. Pour cela, il faut, à la manière d'Oscar Roosevelt avait osé faire dans son temps, imaginer le monde d'après, imaginer des États qui sont capables et qui veulent contrôler par le biais d'une fiscalité juste et équilibrée les rentrées financières et mettre un barrage à des pratiques financières qui sont toujours, même si c'est politiquement incorrect de le dire, à la limite de la magouille et toujours en train de flirter avec la transgression ou le blocage de toutes les dispositions qu'on prend. Le problème des lobbies, c'est un problème qui exige qu'on mette des juges et de véritables magistrats à l'échelle internationale capables de lutter contre les lobbies et de faire voter les lois qui doivent l'être. D'autre part, moi je me rappelle d'Emmanuel Macron disant aux représentants syndicaux de l'hôpital, l'argent magique pour l'hôpital n'existe pas. La pandémie vient de nous prouver que si l'argent magique existe, et nous à Attac nous disons, l'argent magique, il suffit d'aller le chercher en votant des lois qui permettent une application intelligente de la fiscalité. Et là, c'est tout le problème du monde d'après. Nous, on a 34 propositions pour sortir de la crise. Il faut aller sur le site d'Attac, il faut regarder ces 34 propositions et on voit que le financement, c'est une question de volonté politique. Chaque fois qu'on parle d'appliquer une fiscalité à tous ceux qui gagnent énormément d'argent, on nous répond que ah non, c'est beaucoup trop compliqué ou que ah non, il faut laisser les patrons ou les actionnaires décider par eux-mêmes de ce qu'ils doivent ou non restituer à l'État et nous expliquer qu'il faut leur faire confiance. Nous, on ne nous fait jamais confiance. Tous ceux qui échappent à l'impôt, qui pratiquent toutes les formes d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale, à eux, on fait confiance et il n'y a jamais moyen de voter un décret contraignant ou de pénaliser leurs pratiques.
Beaucoup de revendications, mais aussi beaucoup de propositions pour bâtir un réel contre-projet de gestion de la crise sanitaire dans la culture, l'éducation, la santé et les services publics en général. Pour financer tout cela, Attac et d'autres syndicats ont des idées également très précises, notamment en termes de fiscalité des entreprises et de lutte contre l'évasion fiscale. Loin du cliché des services publics toujours en grève, qui demandent le beurre et l'argent du beurre, et qui saisissent n'importe quel prétexte pour battre le pavé. Une seule question, peut-être la plus importante, seront-ils entendus ?
karum na fiu ben ben lañ ala lu yalla lañ ci souf se ben ben lañ gade nit ku ñul mba nit ku wex ben ben lañ min ñangi rente bis bu ne ben ben lañ Ben ben lañ Ay mbolo moy sunu dole ben ben lañ Maslak yeur man da jena fe ben ben lañ Ko ci bar mané na la li bu ko fowé ben ben lañ Gamal ben ben lañ
dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, on vient d'écouter Ben Benella, c'est de Voilà avec 3A en featuring avec Las. Voilà, formation lyonnaise que l'on apprécie beaucoup à Radio Campus et qui vient de sortir son nouvel album Voici avec 3I sur Favorite Recordings. On va se quitter dans quelques instants, mais avant cela, on écoute tout de même la chronique réalisée par Alexandra.
En ces temps un peu moroses, on va essayer de penser à autre chose qu'à cette crise sanitaire. Mon sujet aujourd'hui, c'est les variants anglais. Vous voyez à quoi je fais allusion ? Eh oui, je parle bien évidemment des nombreuses variations du football, car l'Angleterre est reconnue comme « the place » où le foot a évolué. En fonction du lieu ou de l'époque, ce sport a plusieurs versions différentes. ces petites histoires du foot tombent à pic en cette saison pré-carême. Car figurez-vous qu'au XIVe siècle en Angleterre, la tradition voulait qu'on tape le ballon un Mardi Gras. Dans une des versions du jeu, deux villages s'affrontent et se disputent une vessie de porc préalablement gonflée. Le but, c'est l'église du village opposant. Vu la violence du jeu, on imagine que le peuple a voulu se défouler un bon coup avant le carême, cette longue période de privation et d'assaise. Car oui, ce sport avait peu de règles, mais beaucoup de blessés, parfois même des morts. Par exemple, en 1878, à Ashbourne, une personne s'est noyée durant le jeu. D'ailleurs, dans une petite ville au bord de la Manche, il existe une version particulièrement morbide, appelée Frenchman's Head. Ce nom fait référence à la tête d'un soldat français qu'on aurait utilisé en guise de ballon. C'est une sorte de vengeance, car cette ville portuaire a souvent été assiégée par des Français. Alors ce jeu serait-il un prédécesseur du fameux crunch ? Pour rappel, le crunch désigne le match France-Angleterre dans le rugby à 15. Mais revenons au football, avec une variante venue de l'autre côté de l'île cette fois. Dans un bourg, à la frontière écossaise, ce sont les hommes mariés qui affrontent les hommes célibataires. Vous voyez donc que chaque ville ou région a ses propres façons de jouer. Il y a cependant quelques points communs. Par exemple, l'usage exclusif du pied. Bon, c'est vrai, les coups sont plus souvent destinés aux autres joueurs qu'au ballon. Tous ces jeux sont tellement chaotiques que le roi Édouard III les a interdits en 1363. Ceci dit, les gens y jouaient quand même, mais tout en sachant qu'ils risquent une peine d'emprisonnement. Ainsi, sur tout le territoire, et ce malgré les restrictions, malgré les contrôles, il se transmet, il se propage et il s'adapte. Je parle toujours du football. L'une des premières versions officielles remonte en 1857 à Sheffield, à l'occasion justement de la création de ce club. C'est bien en Angleterre que la majorité des règles du jeu ont été mises en place. Et on en est plutôt fiers. Certes, on brille peut-être pas par notre cuisine ou par notre gestion d'une pandémie. Mais c'est nous qui avons fondé, ou plutôt dompté, le sport le plus célèbre au monde.
Et voilà, merci à Alexandra pour cette première chronique. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Ce soir, retrouvez évidemment comme chaque mardi vos émissions 3615 Chill Out ainsi qu'Electric Troubles. On se retrouve quant à nous demain soir pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien et très belle soirée sur nos ondes.